Ah, il y a un petit courant d'air, ça va faire du bien. On va conclure notre série un peu de l'été sur Jonas. Hein. On a vu Jonas 1, 2, 3, il y a une petite coupure la semaine dernière, et là, ce matin, on va conclure Jonas 4, avant de rentrer dans une autre dynamique d'enseignement à partir de septembre. Hein. On va voir durant l'année des gens qui sont rendus disponibles devant Dieu. On verra ça au moins une fois par mois. On verra aussi Jésus qui va rencontrer des personnes, des cœurs à cœur avec Jésus, notamment Nicodème, la Samaritaine et d'autres personnages aussi comme Nathanaël ou Bartimée. Et puis, on verra après la retraite, on sera dans la dynamique de Jacques et on commencera aussi un enseignement dans l'épître de Jacques cette année, dans les grandes lignes de l'enseignement pour l'Église cette année. Mais ce matin, on va conclure avec le cœur rebelle refait surface et Dieu continue de le travailler. Hein? C'est ce que nous allons voir ce matin. Le cœur rebelle refait surface et Dieu continue de le travailler. Le livre de Jonas, personnellement, aurait pu se terminer au chapitre 3. Hein, chapitre 3, la mission du prophète est finie, Dieu a atteint son but, les Ninivites se sont repentis. Voilà, on aurait pu s'arrêter à ce chapitre 3, mais Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Et comme on l'a vu dans les prédications précédentes, Dieu ne s'intéresse pas uniquement au salut des Ninivites, mais Dieu s'intéresse aussi au cœur de son prophète. Hein, il s'intéresse au cœur de Jonas. Et Dieu veut travailler un domaine particulier dans la vie de son prophète. Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il veut travailler en particulier dans la vie de son prophète? Vous vous souvenez un peu des... Je l'ai répété presque, je pense, dans les trois dernières prédications. Est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce que Dieu veut travailler dans le cœur de Jonas? Qu'est-ce qu'il veut lui apprendre? Allez-y, vous avez le droit. Hein.
L'obéissance.
Ok, l'obéissance, un peu plus que l'obéissance. Ça en fait partie, mais... que Christ nous a montré, qu'il nous demande de faire la même chose encore aujourd'hui. Aimer ses ennemis. Apprendre à aimer ses ennemis, à reconnaître que Dieu est juste lorsqu'il décide de leur faire grâce. Se réjouir des hommes et des femmes que Dieu sauve de la perdition éternelle. C'est ça qu'il veut enseigner à son prophète. Et je pense que c'est l'un des plus grands enseignements du livre de Jonas. Mais pour Jonas, c'était une véritable lutte. Aimer ses ennemis et se réjouir de les voir sauvés. Une vraie lutte, un vrai combat, qui peut être aussi des fois notre combat. Pourquoi Dieu fait grâce à telle personne qui m'a causé tant de soucis, qui a dit tant de choses de mauvaises? Des fois, c'est nous qui pouvons être aussi ça envers quelqu'un d'autre. Hein. Le cœur de Jonas, chapitre 1, la révolte d'un cœur face à la volonté de Dieu. Jonas se révolte contre l'ordre de Dieu, il dit aucune parole, vous vous souvenez? Mais son comportement non verbal démontre de l'opposition. Et comme on avait déjà vu, des fois on va pas contester contre Dieu verbalement, mais notre attitude, nos comportements montrent une contestation contre Dieu. Et puis chapitre 2, on a vu la miséricorde de Dieu qui poursuit ce cœur rebelle. Dieu aurait pu dire, allez, c'est fini avec Jonas. Mais non, Dieu poursuit le cœur rebelle. Et Jonas se repent et expérimente la miséricorde de Dieu. Et c'est une grâce qui le poursuit malgré sa rébellion. Et on voit de la sincérité chez Jonas au chapitre 2. Et puis chapitre 3, l'obéissance de Jonas et la manifestation de la miséricorde de Dieu envers ses ennemis. On ne peut pas enlever à Jonas qu'il a obéi, qu'il a proclamé le message de Dieu à Ninive. Et Dieu a manifesté sa miséricorde envers un peuple ennemi à Israël. Et puis on arrive à notre chapitre 4, et ce que nous allons voir ensemble ce matin, le cœur rebelle refait surface. Mais cette fois, le cœur rebelle, il fait quelque chose de différent. Autant au chapitre 1, il était non-verbal, mais là, ça y est, le cœur va parler. Il va exprimer. Et vous savez, Jonas, il n'avait pas tous ses domaines de sa vie qui n'allaient pas avec Dieu, mais il avait un domaine particulier et une vraie lutte, un vrai combat, un vrai endurcissement. Il y a eu peut-être quelques victoires là, entre le chapitre 1 et le chapitre 4. Mais voilà, ce n'est pas guéri encore tout ça. Et ça refait surface. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin ensemble. Hein. On va commencer à relire le chapitre en entier, 4. Et puis ensuite, on verra verset après verset. Et on va commencer ensuite avec le verset 1 et 2 sur les objections de Jonas qui sont enfin verbalisées. Alors après le grand miracle du chapitre 3, la conversion de milliers et de milliers de gens à Ninive, sûrement le plus grand réveil de l'histoire de l'Écriture, cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ?» Quand il est en Israël, en chapitre 1, « C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville, et s'assit à l'orient de la ville, et là il se fit une cabane, il s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin, ou un petit arbuste si vous voulez, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Il mourut. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et il dit « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui n'a t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit ? Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Cela déplut fort à Jonas, il fut irrité, il implora l'Éternel et dit « Ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis. Je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et qui te repent du mal. » Jusqu'à présent, on n'avait pas encore entendu des paroles négatives de la part de Jonas, un comportement, oui, mais pas des paroles. On avait vu un comportement qui exprimait un mécontentement. Mais son opposition n'était pas formulée de manière claire. Mais ici, je pense qu'on va commencer à voir et à comprendre le cœur de notre prophète. Son animosité n'est pas encore guérie. Pour qu'il dise, après avoir vu ce miracle de la vie, que le texte dit cela déplut fort à Jonas, il fut irrité. On voit la profondeur de son insatisfaction. Il y a quelque chose qui n'est pas guéri là. Malgré la repentance sincère du chapitre 2, malgré l'obéissance sincère, je crois vraiment, du chapitre 3, il y a quelque chose encore là, il y a des traces. Et le verbe traduit par « irriter » revient plusieurs reprises dans notre chapitre, si vous avez fait attention. Il peut signifier l'idée de s'enflammer, comme un feu qui s'allume. Il brûle en fin de compte. Mais pourquoi Jonas réagit-il ainsi ? Pourquoi Jonas réagit de cette manière ? Il vient de voir des hommes et des femmes se tourner vers le Dieu d'Israël. Des hommes et des femmes qui peuvent le prendre dans ses bras au lieu de qui auraient pu le tuer, mais qui maintenant deviennent ses frères et sœurs. Il a vu la puissance de Dieu agir. Et lui s'irrite. Quel prédicateur aujourd'hui ne serait pas heureux s'il obtenait seulement une partie, petite partie de ce que Jonas a vécu ? Même 10%. Vous imaginez, on va prêcher, je vais prêcher à Florac et qu'il y a 15 000 personnes qui se convertissent. Est-ce qu'on serait heureux ? Est-ce qu'on serait content ou on serait en panique, on serait inquiet ? On chercherait que les problématiques au lieu de se réjouir de l'œuvre de Dieu. Jonas manifeste son mécontentement. Parce que lorsque notre cœur est profondément attaché à de faux raisonnements, mes amis, il devient des fois très difficile de se soumettre à la volonté de Dieu et de s'en réjouir. Ça, c'est notre cœur. Joachim, oula. Jonas, Jonas, quand il a cultivé ce faux raisonnement, il ne s'en était pas encore détaché. Pour lui, les Ninivites ne méritent pas la grâce de Dieu parce qu'ils ne sont pas le peuple élu de Dieu. Et Jonas est en colère. Jonas est en colère. La raison de sa colère et même de sa fuite lors du premier appel est maintenant clairement exprimée. Hein, j'avais un peu devancé au chapitre 1 cette colère, mais là elle est claire. On la voit. Jonas ne voulait pas que les Ninivites échappent au jugement de Dieu. Il ne voulait pas ça. Et c'est un peu tout l'enjeu du livre ici. Le combat de Jonas, c'est qu'il ne veut pas voir ses ennemis sauvés. Il veut les voir jugés. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Est-ce qu'il a haïssé les Assyriens à cause du mal que la Syrie avait commis contre Israël ? C'est possible. C'est possible qu'il avait une haine contre ce peuple-là. Est-ce que c'est juste par nationalisme, parce qu'il résistait à l'idée que Dieu étende sa compassion à d'autres peuples qu'à Israël ? C'est possible aussi. Est-ce qu'il craignait que la repentance des Ninivites ne mette encore davantage en évidence l'endurcissement d'Israël et peut-être l'endurcissement de son propre cœur ? C'est possible aussi. C'est peut-être un mélange de tout ça et encore d'autres choses dans le cœur de Jonas. Quand Jonas veut fuir à Tarsis, il y a deux mots qui sont très forts. Fuir et contester. Fuir et contester. Et ça, c'est le cœur des fois de l'être humain qui veut fuir et contester contre Dieu. Et sa fuite, souvent, est une manière d'exprimer sa rébellion. Qu'est-ce qu'il voulait contester ? Quelque chose de terrible, la miséricorde de Dieu. Ça ne nous arrive jamais à nous. Hein. C'est que Jonas, hein, de contester que Dieu fasse miséricorde et grâce. Et c'est là que se trouve tout le paradoxe de notre chapitre 4 et du début de notre chapitre. Ce paradoxe, il est là, et c'est le même dans ma vie, c'est le même dans chacune des vies et des chrétiens. La théologie de Jonas est excellente. Elle est juste. Tout ce qu'il dit sur Dieu est bon. Sa confession de foi sur Dieu est excellente. Il sait que Dieu, il dit, un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à colère, riche en bonté. Sa théologie est bonne, mais son cœur lutte contre le Dieu en lequel il croit. C'est terrible ça. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais on peut avoir vraiment une bonne théologie, croire des choses qui sont justes sur Dieu, selon l'Écriture, et au fond de nous, on lutte contre ça. Oh non, tu ne peux pas faire ça, Dieu, quand même. Ça m'arrive. Je ne sais pas si ça vous arrive, ça, des fois. Alors, on n'osera peut-être pas parler à Dieu comme Jonas, mais nous pouvons le penser bien souvent, de nombreuses fois. Nous pouvons savoir ce qui est juste concernant Dieu tout en ayant dans notre cœur du mal à accepter ce qu'il fait. C'est vrai ? C'est une réalité. Hein ? Jonas est vraiment un bel exemple pour nous aussi encore aujourd'hui. On peut savoir beaucoup de choses justes concernant Dieu tout en ayant dans notre cœur du mal à accepter ce qu'il fait. On peut dire, oui, mais là, pourquoi tu agis comme ça ? Alors Jésus, j'ai du mal ce matin avec les prénoms. Jonas continue sa plainte. Il se victimise un peu, j'ai l'impression, versets 3 et 4, jusqu'à 5. Verset 3. Maintenant, il dit à Dieu, « Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville, s'assit à l'orient de la ville, et là il se fit une cabane. Il s'y tient à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Prends-moi donc la vie. Là, on passe un palier quand même. Il y a l'irritation, il n'est pas content. Là, il demande à mourir. Un peu ce qu'on a vu au chapitre 1, quand il demande au... Merci pour l'eau. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je galère un peu. Quand il demande, vous savez, au marin de le jeter par-dessus le bord, il demandait un peu la mort, mais il n'avait pas exprimé clairement. Mais là, c'est clair. Prends-moi donc la vie. Pourtant, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait au chapitre 1 ? Qu'est-ce que Dieu a fait avec Jonas au chapitre 1 ? Est-ce qu'il a tué ? Non, qu'est-ce qu'il a fait ? Où ça? Ah, c'est un psaume. Ah, c'est un psaume. Ouais, ouais, ici, là. C'est un psaume que tu as marqué. Oui, c'est ça, c'est un psaume. De rien. Qu'est-ce que Jonas, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait grâce à Jonas, il a sauvé. Vous vous souvenez, j'avais dit que le fait de partir dans le ventre du poisson n'était pas un tombeau. Au contraire, c'était un lieu pour le sauver, pour le faire réfléchir. Quand il arrive à Ninive, les Assyriens auraient pu tuer l'ennemi des Assyriens qui était Israël. Il le garde encore en vie. Dieu veut garder Jonas en vie. Mais le prophète, lui, il veut mourir. Il veut mourir. Parce que le mécontentement de Jonas le ronge tellement que la mort lui paraît préférable à la vie. C'est terrible ça, ce sentiment de mécontentement, à quel point il peut amener le cœur de l'homme à dire « je ne veux plus vivre ». Alors qu'il sert le Dieu de la vie, le Dieu qui l'a protégé, le Dieu qui veut l'utiliser. Mais son endurcissement, la persévérance dans son endurcissement, alors encore une fois, on avait des traces de sa impression d'aller mieux et hop, ça ressort. C'est pas guéri. Il veut mourir. Il se victimise un peu. Au lieu de tout simplement dire, Seigneur, pardon, j'ai mal agi. Oui, tu es le Dieu de la grâce, c'est le Dieu de la vie. Oui, les Ninivites méritent ta grâce parce que même moi, je suis au bénéfice de ta grâce, je ne suis pas mieux que eux. Non, il se victimise. Moi, je préfère mourir. Au lieu de s'abandonner devant la miséricorde de Dieu et de se soumettre à la volonté de Dieu, Jonas s'enferme dans son raisonnement, son faux raisonnement. Est-ce qu'il était jaloux de voir l'amour de Dieu manifesté envers un autre peuple? J'en sais rien. C'est comme s'il disait, en me forçant à accomplir une mission qui me déplaisait, tu t'es davantage soucié des Ninivites que de moi. Tu as sauvé les Ninivites, mais moi, tu es en train de me perdre. Très égoïste, hein? Dieu va lui répondre tranquillement et gentiment. Parce que Dieu, vous voyez, à ce moment-là, il ne ferme même pas la bouche de son prophète. Il aurait pu dire, allez, tais-toi. Non, il ne ferme pas ça. Il ne fait pas ça, il n'agit pas de cette manière. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les paroles de Jonas, je ne dis même pas ne frôlent l'insolence. Elles sont insolentes. Les paroles de Jonas sont insolentes. Il est arrogant, là. Il est arrogant. Et face à l'insolence et face à l'arrogance, où moi, des fois, en tant que père, pourrais réagir un peu différemment que Dieu, de Dieu, Dieu va continuer à manifester sa grâce et sa miséricorde. Il va faire ce choix-là, Dieu, avec son prophète. L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Il ne lui fait même pas un grand discours. Hein. Il ne lui fait pas toute une théologie sur son irritation. Il lui pose juste une question. « Fais-tu bien de t'irriter ?» Donc Dieu répond à cette agression verbale par une question. Hein. Et il lui pose simplement une question pour le faire réfléchir. Et la question c'est, que peut répondre Jonas à ça en fin de compte? Qu'est-ce que Jonas peut répondre à ça? Et le texte nous montre que Jonas n'y répond pas en fin de compte de suite. Jonas réadopte un fonctionnement de mécontentement non verbal. Comme au chapitre 1 en fin de compte. Il revient sur ses travers du départ. Il fait quoi? Il fuit, il ne part pas. Il quitte la ville, s'installe à l'est de la ville, refuse de répondre à Dieu. Mais il a un Dieu qui est patient. Il a dit, hein. Lent à la colère, riche en bonté. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il va attendre le moment favorable pour poursuivre la discussion avec son prophète. Et Dieu fonctionne encore aujourd'hui de la même manière avec toi et avec moi. Combien de fois Dieu nous parle et qu'il nous pose des questions à travers l'Écriture, à travers des fois un frère, une sœur, à travers même des fois des païens, pour nous faire réfléchir sur notre situation, sur notre mécontentement, sur qui nous sommes. Et nous, on ne veut pas entendre, on fuit. Et Dieu ne dit pas, c'est fini, allez, hop, j'en veux plus de Florent. Non, il est patient, mais il y a un moment où il va revenir. Parce que Dieu aime nous éduquer. Dieu aime ses enfants. peut-être une petite question que vous posez. Pourquoi Jonas s'installe à l'est de la ville? Pourquoi Jonas reste-t-il à Ninive? Pourquoi ne retourne-t-il pas en Israël? C'est une bonne question. Hein? S'installer à l'est de la ville, certains pensent que c'est s'installer dans la direction opposée à celle du chemin du retour. Comme s'il disait, Dieu, je ne rentre pas en Israël. Moi, je reste là. Je me construis une cabane. Donc, s'il se construit une cabane, c'est qu'il a bien l'intention de rester encore quelques temps chez les Assyriens. Un peu un paradoxe, ça. Il veut pas les voir se convertir, mais il reste quand même chez eux. Alors, certains théologiens pensent qu'il est resté là, dans l'attente de voir que la conversion des Assyriens, en fin de compte, c'était du pipeau, que Dieu s'était trompé, et que Dieu, enfin, puisse exercer son jugement sur eux. Donc, il s'attend là pour voir ça. Quelle arrogance. Quelle arrogance. C'est une manière de remettre en question l'œuvre de Dieu dans la vie des Ninivites. C'est une manière de remettre en question ce que Dieu a fait. Et ce que Dieu a fait dans la vie des Ninivites était authentique. Alors maintenant, Dieu va donner une leçon à son prophète. 6 à 8. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête, pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Encore une fois, il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie. » Oh mince. Vous vous souvenez au chapitre 1, Jonas fait le choix, Dieu lui parle, Jonas fait le choix de répondre, de manifester son mécontentement par du non-verbal. Qu'est-ce que fait Dieu? Dieu lui répond de manière non-verbale. Il envoie la tempête, puis le poisson. Cette fois-ci, Jonas fait encore le choix, là il lui parle, mais il fait encore le choix de fuir et de répondre de manière non-verbale par rapport à son mécontentement. Dieu refait la même chose qu'au chapitre 1, il va lui répondre de manière non-verbale, tout en montrant encore sa souveraineté, et sa maîtrise sur la création, tout comme il a fait avec la tempête et le poisson. Il recommence ici avec un arbuste et un ricin. Donc, il va agir sur la nature. Et Dieu commence par faire du bien à Jonas. C'est ce que le texte nous dit. Il lui accorde quelque chose d'important dans cette région. C'est quoi? Quand il fait très chaud, et nous l'avons vécu un peu ces derniers temps, bon, il n'y avait pas la clim à cette époque là-bas, mais l'ombre, la fraîcheur, c'est important. Et Dieu lui fait grâce, il lui accorde de l'ombre. Comment? Par son action créatrice. Dieu fait pousser un ricin, fait pousser un arbuste au-dessus de la cabane, au-dessus de sa tête, si vous laissez l'expression. Quelle est la réaction du prophète quand il voit ça? Comment réagit Jonas? Qu'est-ce que dit le texte? Il éprouva une grande joie à cause de cet arbuste qui a poussé. Alors, je ne sais pas trop comment interprète Jonas ce miracle. Est-ce qu'il pense que Dieu l'encourage à rester là pour voir finalement le jugement tomber sur Ninive? J'en sais rien. Mais en tout cas, la réalité, c'est que Dieu lui a fait du bien. Mais cette ombre va durer combien de temps? Combien? Une journée. C'est une grosse canicule, on l'apprend, mais c'est pas long. Et là, il y a une deuxième intervention de Dieu, mais qui est bien différente de la première. On est d'accord? Qu'est-ce que Dieu fait? Il détruit l'arbre. Hein, quand il fait venir ce ver, il contrôle tout. Il contrôle les éléments de la nature, Dieu. Donc, Dieu a fait pousser miraculeusement cet arbre, mais Dieu est aussi libre et fait le choix de détruire cet arbre. Le seul être réellement libre, hein, je sais que j'insiste souvent dans mes prédications sur ça, c'est Dieu. Dieu est libre, lui. Et une fois de plus, Dieu agit sur sa création. Et ce malheur, c'est un malheur pour Jonas. Ce n'est pas le fruit du hasard. Hein? C'est Dieu qui en est à l'origine. Et après que l'arbre soit mort, Dieu en même temps fait quoi? Pour accentuer l'épreuve, tout comme il a fait dans le chapitre 2, où il parlait de ces flots qui le frappaient sur lui. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il envoie un vent chaud. Donc tu as eu de l'ombre, tu as apprécié, tu n'as plus ça, tu commences à râler, et là en plus tu te prends encore la vague du vent chaud. Dieu, ça ne va pas être facile des fois d'entendre ces phrases-là, mais Dieu est en train de faire souffrir Jonas, là. C'est Dieu qui en est l'auteur, là. Dieu fait souffrir Jonas après lui avoir fait du bien. Et qu'est-ce que la réaction de Jonas ? Jonas est au bout de sa vie. Jonas est au bout de sa vie. Sa joie de la veille disparaît très rapidement. Très, très rapidement. Et une autre nouvelle fois, le prophète, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il préfère ? Mourir. Et les mots sont presque identiques à ce qu'il avait prononcé au verset 3. Alors la question, est-ce que Dieu est injuste ? Hein, c'est une question que les hommes s'interrogent souvent sur la bonté de Dieu. Est-ce que Dieu est vraiment juste ? Et le cas de Jonas est très très intéressant ici pour réfléchir à cette question-là. Pourquoi Dieu commence-t-il à faire du bien à Jonas avant de lui retirer ce bienfait ? Dieu joue-t-il avec les hommes ? Pourquoi il fait ça avec son prophète ? La première réponse, Dieu est juste. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Il faut bien comprendre que le malheur de Jonas n'est pas mortel. C'est Jonas qui demande la mort. À aucun moment, le texte dit que Dieu veut tuer Jonas. Aucun moment. Il veut lui donner une leçon. Il veut lui apprendre quelque chose. Au travers ce bienfait qu'il a reçu et autant cette épreuve qu'il est en train de retrouver avec cette chaleur violente qui tombe sur sa tête. Dieu ne veut pas la mort de Jonas. Ce que Dieu combat, c'est l'entêtement du prophète et la dureté de son cœur. C'est ça que Dieu combat chez Jonas. Et parce qu'il aime, en fin de compte. Je le répète, il aurait pu l'abandonner au chapitre 1. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Alors oui, Dieu s'est réjoui de ces milliers d'âmes qu'il a sauvées à Ninive. Mais Dieu veut le cœur de son prophète. Il veut travailler le cœur de cet homme. Et si Dieu ne change pas avec nous aujourd'hui, il veut continuer à travailler notre cœur au quotidien dans les domaines où on lui résiste encore, où on lutte, où on combat. Où oui, on a de la repentance. Oui, on va avoir de l'obéissance. Et puis ça peut faire de nouveau surface cette lutte. Mais Dieu aime pardonner aux pécheurs repentants. Il ne se lasse pas de faire grâce. Mais si celui-ci persiste dans le péché, alors Dieu finit par exercer son jugement. C'est une réalité aussi, et on va le voir dans ce texte aussi. L'histoire du ressin est un enseignement pour Jonas, et on va le voir pour Ninive. Cet événement nous enseigne aussi sur quelque chose qui est très important et qui doit être apprécié par nous les chrétiens, le caractère de notre Dieu. On apprend plein de choses sur le caractère de Dieu à travers cette histoire aussi. Versets 9 à 11. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ressin ?» Il est courageux, hein ? En tout cas, je ne sais pas si c'est une forme de courage, mais... Il répondit, « Je fais bien de mériter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Jonas, écoute-moi. Tu as pitié du ressin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître et qui est né en une nuit et qui a péri en une nuit. Et moi, Dieu, l'Éternel, créateur de la vie, souverain en toutes choses, celui à qui on doit tout, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Fin énigmatique. On aimerait savoir la suite, n'est-ce pas ? Dieu répète presque la même question qu'il avait déjà posée au début du chapitre. « Fais-tu bien de t'irriter ?» Mais cette fois, la raison de l'irritation est précisée. Il dit « Fais-tu bien de t'irriter à cause de ce que je viens de faire pour toi, à cause de mon œuvre, à cause du ressin ?» Et le prophète, il ose répondre quoi ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui que, je... bien sûr que, oui, que j'ai bien raison de m'irriter contre toi, Dieu. Bien sûr que oui que j'ai raison de contester ce que tu as fait. De contester ce que moi j'estime injuste. Jonas ne reste plus à sa place, mes frères et sœurs. Jonas ne reste plus à sa place. Et ces choses-là, on peut le retrouver dans plein de sphères de la vie encore aujourd'hui, quand on ne reste plus à notre place. Dans une famille, dans une vie professionnelle, dans une vie ecclésiale. Il prend une place qui n'est pas la sienne en affirmant que son irritation est entièrement justifiée. Comme si Dieu lui avait offert un cadeau pour ensuite le lui retirer. Comme si Dieu lui avait laissé croire qu'il approuvait son prophète pour ensuite le désapprouver. Mais ce n'est absolument pas ça. Il a une mauvaise conception, un faux raisonnement sur la justice, Jonas. Il voit la justice de Dieu à travers lui, à travers son cœur, mais pas la justice de Dieu selon Dieu. Et c'est pour ça que souvent le cœur humain, et notre cœur même de croyants, on crie des fois à l'injustice. Jonas a encore un faux raisonnement. Alors oui, Dieu utilise l'histoire du ricin pour enseigner, corriger le faux raisonnement que Jonas entretient depuis le début, en fin de compte. Et vous savez, Dieu, il utilise parfois des scènes de la vie pour nous instruire et nous enseigner. Il y en a une que vous connaissez tous, qui a été là pour corriger un grand roi. Et derrière, il y a eu du fruit qui a été vraiment magnifique. Et ce prophète a pris un risque, mais Dieu l'avait envoyé. C'est Nathan. Nathan est venu par une histoire pour enseigner, corriger le roi. Le Seigneur Jésus-Christ a enseigné à de nombreuses reprises des histoires de la vie quotidienne aux Juifs, aux responsables religieux pour les enseigner, mais aussi à ses disciples. Et lorsque Jésus évoque l'histoire de Jonas, c'est très intéressant. Vous savez, Jésus va reprendre cette histoire devant les chefs religieux. Et c'est dans le contexte de l'endurcissement de leur cœur. C'est très intéressant pour à quel moment il utilise cette histoire, Jésus. Eux, ils étaient en train d'affirmer que Jésus chassait les démons par la puissance de Satan. Et c'est ce fameux verset, des fois, où on a un peu de mal, où ils disent qu'ils font le blasphème du Saint-Esprit. Hein ? Parce qu'ils étaient en train d'attribuer l'œuvre magnifique de miracle à Satan, alors que c'est le Christ lui-même, Dieu lui-même qui est en train de faire ça. Et Jésus va utiliser par la suite l'histoire de Jonas pour parler de l'endurcissement de leur cœur. L'enseignement du ricin, d'un côté nous avons Jonas et le ricin, de l'autre nous avons Dieu et les Névites. Le ricin n'a rien coûté à Jonas et n'a existé que 24 heures. Mais la relation entre l'Éternel et les Ninivites est présentée comme celle du Créateur avec ses créatures. Même les animaux sont mentionnés ici. Il est montré comme un Dieu qui aime sauver. Et le Dieu dans Jonas, c'est le même Dieu aujourd'hui où on retrouve des versets dans le Nouveau Testament qui nous parlent d'un Dieu qui aime sauver. Nous sommes au bénéfice de ce salut encore aujourd'hui parce que Dieu aime sauver encore en 2026. Dieu aime faire miséricorde. Dieu aime être encore patient aujourd'hui. Dieu aime aussi exercer encore sa justice et son jugement aujourd'hui. Mais Dieu veut que Jonas comprenne pourquoi il a tellement à cœur de sauver les Ninivites. Parce que Dieu veut révéler sa personne. Il met en lumière la grandeur de sa bonté, de sa miséricorde, de son amour. Et comment un Dieu invisible peut-il manifester sa miséricorde, sa bonté, sa grandeur? Comment c'est palpable? Comment on peut le voir? Il faut bien que ça se manifeste sur la terre. Il faut bien que ça soit visible. Et donc Dieu a fait le choix pour qu'on puisse le voir, de sauver des ennemis d'Israël, des personnes rebelles, méchantes, qui faisaient des choses atroces. C'était le seul moyen visible de voir la manifestation de la grâce de Dieu. Sinon, c'est juste un concept. C'est juste un concept que Dieu sauve, que Dieu aime, que Dieu est lent à la miséricorde, que Dieu est bon. Mais là, il rentre dans l'histoire des humains. Et il manifeste ça. L'histoire de Jonas, je l'ai noté, est unique dans l'Ancien Testament, mais elle annonce l'œuvre que Dieu accomplira avec la venue du Christ. Dieu veut sauver des millions et des millions de personnes qui étaient ses ennemis. Dieu exerce aussi encore son jugement aujourd'hui parce qu'il est juste. Mais Dieu, encore aujourd'hui, sauve et sauve à travers l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez la suite de l'histoire de Ninive ? Parce que là, on parle d'un Ninive qui est sauvé. Il va se passer de belles choses pendant des années. Mais est-ce que vous savez comment va finir Ninive par la suite? Est-ce que vous savez ce qui arrive à Ninive une centaine d'années après? Il y a un autre peuple qui arrive. C'est les Assyriens, les Ninivites. Okay, il y a un autre peuple qui arrive que Dieu va utiliser pour juger justement les Ninivites. Parce qu'ils ont eu de la rébellion. Ils n'ont plus été dans la continuité à vouloir servir l'Éternel. Les générations sont passées et ces nouvelles générations n'ont pas adoré le vrai Dieu, l'Éternel. Les Babyloniens vont arriver. Et l'histoire de Ninive montre que Dieu a d'abord manifesté sa grâce de manière abondante. Un temps de patience a été accordé aux Ninivites. Mais Ninive s'est éloignée de Dieu et Dieu est en droit d'exercer son jugement sur cette nation. Ninive a eu cette ombre de fraîcheur de l'Éternel sur eux. Mais Ninive a aussi connu ce petit ver qui est venu tout détruire. Je ne vais pas m'attarder sur la fameuse question des 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Il y en a plusieurs, tellement d'explications. J'en ai retenu une, je vous la glisse. Et ensuite, on va passer à la conclusion du message. L'explication la plus simple, c'est qu'ils manquaient de discernement dans le domaine éthique et spirituel. Ils ne connaissaient pas Dieu. Voilà, je m'arrête sur ça. Je pense que c'est peut-être une des éléments de réponse les plus simples sur qu'est-ce que vous voulez dire. Ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Des personnes qui n'avaient pas de discernement éthique et spirituel, ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Je finis avec cette question qui peut arriver en finissant ce livre. La question c'est, Jonas a-t-il finalement accepté que ses ennemis avaient droit au salut? A-t-il demandé pardon à Dieu pour son endurcissement? Qu'est-ce que le texte nous répond? Rien du tout. On reste sur notre faim. Mais ce qu'on peut affirmer, et c'est ça qui est beau dans ce chapitre 4, c'est que Dieu a continué à parler à son prophète. Dieu a continué à parler à son prophète. Dieu a continué à vouloir le corriger. Dieu a continué à le questionner. Dieu a continué à vouloir le cœur de son prophète. Est-ce que tout était perdu chez Jonas? Absolument pas. Et encore une fois, je le répète, il ne faut pas voir Jonas comme quelqu'un à la fin de tout mauvais. C'est que Jonas avait un domaine de sa vie dans lequel il était endurci. Quand il finit par l'interroger, c'est la même occasion pour nous. Qu'aurions-nous répondu à la place du prophète? Acceptons-nous que Dieu manifeste sa grâce et sa miséricorde envers des personnes que nous n'aimons pas ce matin? Des personnes dont nous pensons peut-être qu'elles ne méritent pas cette grâce? Avons-nous du mal à nous réjouir lorsque Dieu fait grâce à quelqu'un que nous considérons comme notre ennemi? Cela peut arriver, hein? C'est pas que chez le voisin, c'est pas que chez Jonas. Ça peut arriver. Parce que Jonas, en fin de compte, c'est toi et moi. Et peut-être dans différents domaines de nos vies, nous sommes ce matin en contestation avec Dieu. Et peut-être pas de manière verbale, mais par nos attitudes. Et je crois que le livre de Jonas nous rappelle que Dieu ne veut pas seulement changer nos comportements, il veut surtout travailler nos cœurs. Et comme Jonas, Dieu est patient avec nous. Comme avec Jonas, Dieu nous questionne, Dieu nous reprend, Dieu nous enseigne. Parce que Dieu, comme l'a dit Jonas, est un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. La lutte profonde que Jonas avait dans un domaine de sa vie, c'est peut-être aussi une lutte que j'ai ce matin. Dans sa logique humaine, il n'arrivait pas à intégrer pleinement la volonté de Dieu, tout comme moi. Certains jours, certaines semaines et peut-être certains mois. Et cette lutte a refait surface, malgré une repentance sincère, chapitre 4, malgré une obéissance, chapitre 3. Mais ce qui est beau dans ce passage encore, et je veux mettre l'accent sur notre Dieu, sur notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que Dieu a continué d'œuvrer dans la vie de cet homme. Le Dieu que je sers, le Dieu que nous servons, le Dieu qui est votre Père céleste, ne se lasse pas de faire miséricorde. Je ne connais pas la suite de Jonas, mais j'aimerais dire que son cœur a vraiment été émondé et il est vraiment retourné en Israël avec la joie de dire les Ninivites sont convertis.